Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jaudard, le 22 novembre 89.
Je continue et je termine ces cinq modalités de l'acte. Si vous êtes très attentif à ces cinq modalités de l'acte, vous voyez que c'est le fondement des cinq voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Ce qui est normal, si on touche là un sommet par rapport à l'homme et par rapport à l'être, c'est à partir de là que nous pourrons remonter jusqu'à Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est de fonder métaphysiquement les cinq voies que saint Thomas nous donne en théologie. C'est important pour nous. C'est un nota bene. Hein. Ça ne fait pas partie strictement de la réflexion philosophique sur les cinq modalités. Mais ça fait partie de notre manière de pouvoir comprendre saint Thomas. Je vous disais hier qu'après le bien vu du point de vue métaphysique, la ratio boni, qui est un mode d'acte, et même le mode de l'acte le plus explicite, puisqu'il est ultime, il y a le point de vue du vrai. Qualifier notre intelligence, c'est le bien de notre intelligence. Et ce bien de l'intelligence se fonde directement sur le vrai acte d'être. L'être, dans la mesure où il est en acte, capable de perfectionner mon intelligence. Alors c'est là où on voit cette distinction que saint Thomas a faite entre le vrai transcendantal, acte d'être, et la vérité qualifiant mon intelligence. Il ne faut jamais les séparer. C'est là où il y aurait à regarder comment Heidegger n'a pas bien compris cela. Heidegger est très axé vers la vérité, la philosophie heideggerienne. Mais Heidegger ne comprend absolument pas ce qu'est le vrai qualité de l'intelligence. Il ne veut voir que aletheia, le dévoilement de l'intelligence, le dévoilement de l'être, dans le vrai ontologique. C'est intéressant à regarder, étant donné la place de la vérité dans la philosophie de Heidegger. Et en même temps, de comprendre, de voir comment il n'a pas saisi ce point de vue de saint Thomas. Il fait l'application pour ceux qui s'intéressent à Platon, au mythe de la caverne. Et c'est l'interprétation qu'il donne du mythe de la caverne en disant que là, on assiste à la décadence de la philosophie grecque qui s'est tournée vers le vrai qualité de l'intelligence. C'est très subtil, c'est intéressant, mais c'est très subtil. En disant que dans le mythe de la caverne, il y a une première partie du mythe de la caverne qui regarde le vrai dévoilement de l'être et l'autre partie, le vrai qualité de l'intelligence. Le vrai, la scolastique dira le vrai ontologique et le vrai formel. Il n'insiste pas plus. Quatrième modalité de l'acte, les opérations vitales. Alors là, il faut être très attentif. Il est évident que dans notre expérience, nous avons toute une gamme des opérations vitales. Regardez dans Saint Thomas, dans le Contra Gentiles, chapitre, livre 4, chapitre 11. Il y a un très bel article. C'est le début de sa théologie de la très sainte Trinité. Pour montrer que l'opération vitale est une opération immanente. Comme telle, cette opération immanente n'implique aucune imperfection. Et c'est par là qu'on peut découvrir que l'opération vitale comme telle est une des modalités de l'acte. Alors, j'explique un tout petit peu, parce qu'on me l'a demandé. C'est important. C'est pour nous, là aussi, mettez ça en nota bene, c'est toute la théologie du mystère de la très sainte Trinité qui repose sur cette modalité de l'acte. C'est curieux, vous voyez, on est vraiment là à un sommet quand vous regardez ces quatre modalités de l'acte. Puisque c'est pas étonnant, la théologie ne peut se servir de la philosophie que dans la mesure où j'atteins quelque chose de parfait. Autrement, je ne peux pas l'attribuer à Dieu. Alors, il faut bien saisir ça. Vous saisissez d'abord les opérations vitales au niveau sensible. Je suis capable de voir. Je suis capable d'être éveillé. J'ai fait la petite expérience ce matin. Vous êtes passé du sommeil. Conscience que vous étiez un frère de Saint Jean. J'espère que c'est la première conscience que vous avez eue. Et non pas un petit animal qui se réveille. Quelquefois, on passe par tous les aspects successifs de l'évolution. Mais normalement, quand on est pleinement éveillé, on se réveille pour aller à l'oraison. Donc, on est frères de Saint Jean, les fils de Dieu. Alors, l'opération vitale de la vision est imparfaite. Puisque cette opération vitale implique toujours une capacité de voir. Je m'actue. Je suis capable de voir et je vois. Et cette opération vitale peut connaître du plus et du moins. Je peux, en raison de la myopie, voir moins bien. Donc cette opération vitale a des limites. Et ces limites proviennent de l'organe. C'est pas mon âme qui vieillit, c'est mon corps. Mais comme mon âme est dans mon âme informant le corps, vieillit par mon corps. Ma faculté de voir vieillit en fonction de l'organe. On n'est pas encore arrivé à faire revivre l'organe en mettant, je ne sais pas, des greffes particulières pour permettre que, puisque l'âme ne vieillit pas, je dois pouvoir rénover l'organe. Quand il s'agit des opérations spirituelles, d'intelligence et de volonté, est-ce qu'elles vieillissent ? Point d'interrogation. Les opérations intellectuelles ont toujours besoin d'une petite image. Donc ont toujours besoin du corps. Je ne peux pas connaître tant que je suis sur la terre, d'une manière purement spirituelle. Il y a toujours, dans l'ordre de l'exercice, une dépendance à l'égard de l'image. Ce qui rend raison, vous voyez, de ce fait qu'on peut, à la suite d'un accident, tomber dans le coma et ne plus avoir conscience. On peut, par une piqûre, vous rendre inconscient et donc on peut trafiquer dans votre corps. Le chirurgien qui imite de loin la torpeur dans laquelle Dieu a plongé Adam pour former la femme, puisque première opération chirurgicale, charismatique. Il ne faut jamais l'oublier, c'est quand même ça la première. On peut me plonger dans la torpeur. Pas une torpeur mystique, mais une torpeur inframystique. Je n'ai plus conscience. Oui, ça, on le constate, ça. Ce qui prouve que l'intelligence est liée dans son exercice au corps. Mais pas dans sa spécification. Comme on disait hier si bien, la première opération de l'intelligence atteint l'universel. Hein. Je crois que vous commencez à le savoir. Quand ça se met sous un mode ironique, ça prouve qu'on le sait. C'est le prof de l'ironie. On a dépassé. Vous n'êtes jamais ironique dans un examen, parce que vous ne savez pas encore assez. Donc, l'intelligence est capable d'être spécifiée par l'universel, l'être de raison. C'est ce qui manquait. Il y avait l'être de raison qui était resté en rack. Et l'être de raison spécifie l'intelligence d'une manière au-delà du point de vue physique, corporel. Mais l'exercice, voyez, c'est très intéressant de voir ça. Parce que ça montre que toutes les philosophies, comme la phénoménologie, comme le néoplatonisme, qui regardent plus l'exercice que la spécification, on n'arrive plus à saisir parfaitement le domaine de l'intelligence dans toute sa pureté. Puisque c'est du côté de la spécification qu'on peut découvrir que l'acte de l'opération vitale, comme telle, n'implique aucune imperfection. Mais mon opération vitale, dans son exercice, est toujours liée au corps. Et donc, dans son exercice, est toujours limité. C'est pour ça que je ne peux pas penser tout le temps. Quand je suis fatigué, quand je suis mal éveillé, j'ai beaucoup de peine à faire de la métaphysique. Vous devriez tous avoir une facilité énorme à faire de la métaphysique, puisque c'est naturel. C'est réveiller en vous ce qu'il y a de plus naturel, votre intelligence. Mais vous avez beaucoup de peine à faire de la métaphysique parce que vous avez dormi beaucoup. Jusqu'avant d'entrer dans la communauté Saint-Jean, votre intelligence est restée dans un état de torpeur. Et vous n'avez pas saisi l'être de raison, l'universel. C'est dans une lecture de réfectoire, je ne sais plus quel livre, mais c'était magistral d'entendre ça. On faisait l'éloge d'un savant qui, une fois dans sa vie, avait saisi l'universel. Une fois dans sa vie, son intelligence était éveillée. Parce que tant qu'on ne saisit pas l'universel, notre intelligence est dans un état de torpeur. Torpeur de l'imaginaire. On reste dans l'imaginaire, la représentation. Des quantités de personnes ne saisissent pas l'universel. Saint Thomas le dit, à la suite d'Aristote. Ut in pluribus, manent in sensu. La plupart des gens demeurent in sensu, c'est-à-dire demeurent dans les sens, dans le sensible, dans l'imaginaire. L'intelligence, l'œil de l'intelligence, comme dit Platon, s'éveille quand on atteint l'universel. Alors on atteint quelque chose qui est au-delà de la matière. Vous ne pouvez pas vous représenter l'universel. Impossible. Cherchez. Représentez-vous l'universel. Voyez, faites une affiche de propagande de l'intelligence. Vous verrez, l'intelligence atteint l'universel. Représentez l'universel. représenter le minet, le petit chat, mais vous ne pouvez pas représenter la nature du chat. Impossible. Vous pouvez représenter Pierre, tel homme, mais vous ne pouvez pas représenter l'homme. Et on passe de la représentation à la signification. Ça, il faut revenir souvent là-dessus, hein, pour faire ce passage, pour devenir intelligent, quoi. Pour s'éveiller à la vie de l'intelligence. Alors, vous voyez, tout est là. L'opération vitale de l'esprit. Je prends l'intelligence, puisque c'est là où c'est le plus clair. On passera après à l'amour. L'intelligence, dans sa spécification, n'implique aucune limite. Mon intelligence saisit l'être. L'être n'est pas limité. L'intelligence est ordonnée à l'être. Primo cadit in intellectu ens, cette fameuse phrase de saint Thomas, qu'il dit 173 fois dans la Somme, dans tous ses ouvrages. Ça prouve qu'il y tient. Je crois que c'est la phrase que saint Thomas répète le plus. Donc, retenez cette phrase, vous êtes thomiste. Mais retenez-la et comprenez-la. Primo cadit in intellectu es. Vous sauriez que ça en latin, c'est déjà bien. Parce que c'est quand même la phrase capitale de toute la philosophie de saint Thomas. L'intelligence est faite pour saisir es, ce qui est. Eh bien, ce qui est au-delà du fini et de l'infini. Et donc, l'intelligence comme telle, dans son opération, n'est pas limitée. Donc, l'opération vitale comme telle, spirituelle, est acte d'un mode de l'acte. Pas dans son exercice. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est l'immanence la plus parfaite. Et c'est ce que saint Thomas montre dans ce chapitre 4 du Contra Gentiles, dans ce livre 4 du Contra Gentiles au chapitre 11. L'opération vitale comme telle, surtout l'opération vitale spirituelle, n'a pas de limite. Elle est purement immanente. On est, on s'identifie à ce qu'on connaît. Alors évidemment, vous allez me dire tout de suite, ah, mais quand je regarde sa manière de se réaliser, c'est uniquement dans l'ordre intentionnel. Donc c'est imparfait. Oui, mais attention, l'appréhension se complète dans le jugement. Et le jugement touche la réalité. C'est pas l'appréhension qui est parfaite, c'est le jugement. Le jugement est une opération parfaite. Et le jugement, dans ce qu'il est parfait, est contemplatif. Et donc, dans l'opération de la contemplation métaphysique, je peux dire que cette opération comme telle est un mode de l'être, de l'acte. Il n'implique aucune imperfection. C'est pour cela que je peux attribuer la vie à Dieu. Si la vie, si les opérations vitales impliquaient une limite, vous ne pourriez pas dire que Dieu est vivant. Or, il est dit que Dieu est vivant. Au point de vue de la foi, il est vivant. Et voyez, si vous n'arrivez pas à atteindre ça, votre affirmation « Dieu est vivant » reste métaphorique. Et par le fait même, vous ne pouvez plus élaborer un traité de la très sainte Trinité d'une manière contemplative. La théologie scientifique évacue toutes les métaphores pour arriver à la contemplation. C'est pour ça que c'est si important, on est pas pour le plaisir, hein, de... c'est pour que votre foi se libère de tout imaginaire. Et tant que votre foi est liée à l'imaginaire, vous ne pouvez pas avoir une foi contemplative. Vous avez une foi rampante. Alors, dès qu'il y a le moindre obstacle, vous savez ce que font les animaux rampants. Dès qu'il y a le moindre obstacle, ils tournent le dos, ils s'en vont. Tandis que si on a une foi contemplative, on dépasse ces obstacles. Et ça, c'est là où la philosophie, la métaphysique, est vraiment au service de la foi. Parce qu'elle écarte toutes les métaphores pour saisir ce qu'il y a de pleinement spirituel, de pleinement contemplatif. Alors, j'espère que vous comprenez le petit raisonnement que je fais pour comprendre comment on peut dire que l'opération vitale est quatrième mode de l'être en acte. Alors comprenons bien, ce n'est pas l'être en acte, c'est un mode de l'être en acte. Mais c'est energeia, ce n'est pas entelekeia. J'espère que vous comprenez, c'est du grec. Alors, energeia, c'est l'être en acte. Entelekeia, c'est l'opération vitale qui atteint l'être en acte. Oui, autrement dit, vous allez tout de suite saisir. Je peux regarder l'opération vitale en tant qu'opération vitale. Et alors, à ce moment-là, je regarde son exercice. Opération vitale de mes opérations vitales est limitée. Même la contemplation, elle est limitée. Et je peux regarder l'opération vitale du point de vue de l'être. Et l'opération vitale du côté de l'être implique. Et voyez, l'opération vitale du côté de l'être, c'est justement parce que l'intelligence est faite pour l'être. Si je ne saisis pas primo cadit in intellectus ens, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être, vous ne pourrez jamais dire que l'opération vitale est un mode de l'être en acte. L'intelligence, mon intelligence, et la vôtre aussi, mon intelligence est la même, spécifiquement. Nous avons la même intelligence, c'est pour ça qu'on peut se parler. Mon intelligence est ordonnée à ce qui est. En tant que tel, à ce qui est du point de vue de l'être. Ce qui est du point de vue de l'être. Et l'être en acte. Mon intelligence est ordonnée à cela. Donc l'intelligence, en tant qu'elle atteint ce qui est en tant qu'être, est parfaitement acte. Elle est donc un mode particulier. L'immanence, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Je ne regarde plus l'être de l'extérieur, je le regarde de l'intérieur, puisque je le contemple. C'est l'être que je contemple. Vous voyez ? Donc, il faut bien saisir, ce n'est plus du tout l'opération vitale dans sa manière d'exister, c'est l'opération vitale dans ce qu'elle a de tout à fait caractéristique et de parfait. C'est la ratio de cette opération vitale. Elle est un mode particulier de l'être. Vous voyez, je fais la distinction là entre l'opération vitale entelekeia. Entelekeia, n'est-ce pas ? Cette opération vitale me lie à ma fin. C'est pour ça que je dis entelekeia, puisque entelekeia, c'est l'ayance dans la fin. Je possède la fin par mon opération vitale. cette opération vitale en tant qu'elle est une avec la réalité qu'elle contemple, en tant qu'elle est pleinement actuée par l'être en acte que j'atteins. À ce moment-là, je peux dire que l'opération vitale, comme telle, est un mode de l'être en acte. Je peux faire le même raisonnement par rapport à la volonté. En regardant que l'acte propre de la volonté, c'est l'amour. Alors, je peux regarder l'amour comme opération vitale. Et l'amour comme opération vitale, alors, elle implique toujours une imperfection. C'est mon opération vitale. Et puis, je peux regarder l'amour dans ce qu'il a de tout à fait ultime, qui m'unit au bien qui m'attire. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus difficile du côté de l'amour. Je peux le dire en tant que je saisis dans l'amour. Vous voyez, ce qu'il y a de tout à fait particulier, c'est que l'amour qui me fait, qui m'unit au bien, n'implique en lui-même aucune imperfection. Il y a une ratio amoris qui n'a aucune imperfection. C'est pour ça que je peux dire que Dieu est amour. Si l'amour comme tel impliquait toujours une imperfection, je ne pourrais pas dire que Dieu est amour. Vous voyez ? Alors c'est ça qui est la purification ultime de l'amour. Parce que si je disais que l'amour implique toujours une dualité, et si je dis que Dieu est amour, je dis qu'il y a la très sainte Trinité en Dieu. Mais ça, vous n'avez jamais pensé, quand Saint Jean dit Dieu est amour, que ceci exige de nous d'aller jusqu'à le fait que l'amour est un mode particulier de l'être en acte. Ça ne m'est pas venu à l'esprit, ça c'est sûr. Parce que vous n'avez pas pensé. Vous n'avez pas pensé, vous dites Dieu est amour, oui. C'est merveilleux. L'ultime révélation sur Dieu, Dieu est amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est amour, ça prouve que l'amour, comme tel, n'implique aucune imperfection. Donc c'est pas seulement l'union. C'est l'unité. C'est une unité vécue. Vécue dans une immanence parfaite. Donc voyez comment nous pouvons saisir que l'opération vitale est un mode particulier de l'être en acte. Je n'insiste pas plus, mais si vous avez des difficultés, dites-les tout de suite. Puisqu'on ne reviendra pas dessus. Oui.
Si on pose le même raisonnement sur n'importe quelle opération vitale,
oui et non. Parce que toute opération vitale qui implique un corps, je peux dire évidemment que la vie vient de l'âme. Oui. Alors formaliser, mais c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous pouvez dire que la vision, en tant qu'opération vitale, n'implique aucune imperfection? Est-ce que c'est encore la vision? Ou est-ce que la vision, comme telle, n'implique-t-elle pas nécessairement le corps? Oui. Tandis que l'intelligence et l'amour spirituel n'impliquent pas le corps. Donc je suis en face d'une immanence parfaite. Et c'est en fonction de cette immanence parfaite que ça n'implique pas d'imperfection. Oui.
Est-ce que la limite est une imperfection?
La limite, quelle limite? Oui, la limite, se prend du côté de l'exercice de mes opérations vitales. Oui, mes opérations vitales sont limitées parce que mon capital de vie est limité. Mais l'opération vitale spirituelle, intellectuelle et celle de l'amour n'implique en elle-même aucune imperfection. L'intentionnalité est du côté de l'appréhension, pas du côté du jugement. Le jugement dépasse l'intentionnalité, puisque je peux avoir le jugement d'existence. Et dans le jugement d'existence, vous touchez une réalité qui existe. Donc il n'est plus intentionnel. Oui. Autrement, je ne pourrais pas faire la critique de la fémologie. Si mon intelligence était prisonnière de l'intentionnalité, et que mon intelligence ne sortait jamais d'intentionnalité, je ne pourrais pas faire la critique. C'est parce que mon intelligence touche ce qui est que l'intelligence peut critiquer une philosophie qui demeure dans l'intentionnalité, dans le vécu. Je suis capable de dépasser le vécu. C'est merveilleux. Ma conscience ne dépasse pas le vécu, mais je suis capable de dépasser le vécu. Oui, c'est là où je vois les limites de la psychologie. Parce que la psychologie demeure dans le vécu. Tandis que le philosophe, par l'intelligence de l'être, donc très peu de philosophie, hein, dépasse l'intentionnalité. C'est la chose la plus difficile. C'est le dépassement du mur du son. Arriver à saisir que mon intelligence est faite pour ce qui est, et non pas en premier lieu pour l'intentionnalité, le vécu. C'est évident que si je restais dans l'intentionnalité, mon opération vitale serait toujours limitée. Il n'y a pas d'intentionnalité en Dieu. Dieu est une réalité qui est sainte. Ce qui complique tout, c'est l'intentionnalité. C'est pour ça qu'on aime tellement de rester dans la complexité. On aime tellement la psychologie. Parce qu'on reste dans la complexité. Oui.
Je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce que vous dites que le bien est nécessairement devant le vrai.
Le vrai, le bien.
Comme modalité de l'acte, pourquoi est-ce qu'il est nécessairement devant le vrai?
Parce que le bien regarde le point de vue de l'esprit dans sa totalité. Oui.
Vous pourriez reprendre l'opération de l'induction, la différence entre acte energeia, acte
entelecheia. Oui, ça c'est une distinction. Entelechi, hein, quand vous voyez dans tricot, entelechi, pensez tout de suite entelecheia. Tricot aurait dû tout simplement laisser entelecheia. C'est intraduisible. Alors, je vous ai déjà dit ceci. C'est intéressant de voir que energeia et entelechi, entelecheia, sont traduits pas en latin, par actus. Le latin n'a mis qu'un seul mot. Donc on a simplifié Aristote. Je ne sais pas si en arabe on a mis deux mots. Regardez Avicenne arabe. Ça c'est ceux qui savent l'arabe qui doivent faire ça. Je l'avais demandé quand on avait des Libanais ici. Il n'a jamais su dire exactement. Je comprends que ce n'est pas commode, mais ce serait très intéressant de voir si c'est le latin. Vous voyez, il y a deux mots. Aristote a inventé deux mots. Il n'en a inventé que deux. Les philosophes modernes en inventent beaucoup plus. Aristote a inventé toti en einain. c'est tout simplement quod, quid, erat, esse. Voilà la traduction simultanée du toti eneinai. Oui, traduction bête, simultanée. Comme c'est un peu trop compliqué, quod, quid, erat, esse, on a dit quidité. Et on a traduit en français quidité. Et même Sartre emploie le mot quidité, sans avoir du tout ce qu'il dit. Je suis persuadé que Sartre, quand il dit quidité, ne pense pas au toti-en-einein. Parce que le toti-en-einein, Aristote l'invente, quidité, pour saisir l'ousia. L'ousia, principe, cause, selon la forme de ce qui est. Quidité, c'est comment l'intelligence saisit l'ousia. L'intelligibilité. Aristotique, l'ousia, c'est là où je trouve en premier lieu la quidité. Rien n'est plus intelligible que l'ousia. Et donc l'ousia, en tant qu'elle est intelligible, est quidité. C'est l'ousia face à mon intelligence. Vous voyez, l'ousia face à mon intelligence, c'est quidité. Et c'est là où la quidité est parfaite. La qualité a une quidité. Tout ce qui existe est intelligible. Mais l'intelligibilité de tout ce qui existe n'est pas ce qui est. Comprenez bien. Tout ce qui existe possède une certaine intelligibilité, donc une certaine quidité. Mais la quidité n'est pas adéquate à la réalité existante. C'est pour ça que j'ai deux opérations de l'esprit. J'intellige et j'adhère. L'ousia face à l'intelligence. L'ousia possédant la quidité. Et puis l'autre mot, c'est entelekeia. Entel. Oui, en. Alors, ça n'a pas été traduit en. Ça n'a pas été traduit en latin. Si vous voulez, on peut essayer de traduire en latin. Traduction simultanée, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes traduction simultanée, qu'est-ce que vous faites? En. In. Alors, le mot n'est pas entier, c'est ennuyeux. Tel. En in fine. Et ayant, c'est aberré. Abensia. C'est pas latin, ça fait rien. Oui, ça va pas du tout, ça va pas du tout comme un thème. Alors, vous avez sauté dessus, comme c'est intraduisible, vous avez dit actus. Alors que c'est l'ayance dans la fin. Vous voyez, le chat, quand il est auprès du feu, il fait gros dos. J'ai toujours vu un chat qui fait. Il ronronne. Quand un chat ronronne, il fait gros dos. C'est entelekeia. C'est un petit fantasme de entelekeia. Vous faites gros dos. Quand vous êtes dans la fin. C'est vrai, quand on est dans la fin, on est heureux d'être dans la fin. On y est, enfin. Ça ne veut pas dire qu'on se repose, le repos est la conséquence. Entelekeia, on est dans la fin, on possède la fin. On est l'ayance dans la fin. Tandis qu'energeia, l'energeia, c'est la fin, tout court. pourrait dire la fin possédée subjectivement et la fin objectivement. Et alors le latin traduit actus. C'est très dommage. Parce que je crois qu'Aristote avait raison d'inventer deux mots. Alors je vais expliquer pourquoi il invente ces deux mots. Il faut tout le temps revenir à ça. Il invente ces deux mots pour montrer que l'ousia est saisie dans la réalité. Principe selon la forme de ce qui est. Tandis que l'acuité fait appel à l'intelligence. Donc c'est pour montrer la distance et l'abîme qui existe entre ce qui est et l'intelligibilité de ce qui est. Ce que Platon confondait. Pour Platon, l'intelligibilité, c'est l'être. L'être, c'est l'intelligibilité. Oui, l'erreur de toute la phénoménologie. Et ici, Platon invente ce mot pour montrer la différence entre la fin qui est le bien. La fin, c'est le bien. C'est le bien qui m'attire. Et l'attirance en moi de la fin. Quel amour. L'amour est entelegeia. Je fais gros dos. Quand j'aime, je suis lié à ma fin. Et la fin comme telle qui m'attire. Alors vous voyez, cet ultime effort de voir que dans l'opération vitale, qui est entelegeia, dans l'opération vitale, en raison de son immanence, je peux découvrir l'être en acte. Et donc, c'est, voyez, c'est saisir que l'entelekeia est bien acte, lui aussi. Mais en purifiant entelekeia de tout son mode particulier qui lui est toujours libre. Son exercice. Donc c'est d'arriver à distinguer dans l'acte l'exercice et l'acte. Ce qui est la chose la plus difficile. Eh bien, je crois qu'Aristote a inventé entelekeia de energeia pour distinguer acte de l'exercice. Comme il distingue l'intelligibilité et l'être, il distingue l'acte de l'exercice. Alors quand je suis dans entelekeia, je n'arrive pas à distinguer les deux. Les deux sont liés. Voyez, prenez Leibniz. Ça vous fait une référence très connue. Prenez dans Leibniz. Qu'est-ce que c'est que l'acte? C'est l'exercice. Leibniz n'a pas saisi la différence entre la fin, acte, et l'exercice. Et la plupart. Prenez Lavelle, son traité sur l'acte. Il identifie acte à exercice. La plupart font ça. Très peu de philosophes, très très peu, même des thomistes, hein, distinguent l'acte de l'exercice. Parce qu'ils n'ont plus saisi. Vous voyez, comme Gilson confond essai et acte. Des quantités confondent l'exercice et l'acte. Donc l'opération vitale et l'acte. Et ceci parce que justement, ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'induction. Aussi bien de la substance. Alors ils sont restés dans l'acuité. De l'acte. Ils n'ont pas saisi la substance comme cause, comme principe. Ils n'ont pas saisi l'acte comme principe et comme fin.